Il est 18h à Niamey, c'est l'heure du journal en français du studio Kalangou au micro Michel Deji. Les titres de ce journal, Le Monde célèbre ce mardi 20 novembre 2018 le 29e anniversaire de l'adoption par les Nations Unies de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le contenu de cette convention et les efforts du Niger dans le cadre de son respect sont à suivre avec la ministre en charge de la protection de l'enfant et le coordonnateur de la coalition nigérienne de défense des droits de l'enfant, CONID. Certaines écoles de la commune d'Agadez rencontrent des difficultés après la reprise des cours. 1000 tables bancs ont été mises à leur disposition par la base américaine 201, mais quelques difficultés demeurent toujours. Vous suivrez le secrétaire général de la mairie d'Agadez à l'issue d'une visite effectuée hier. 10 girafes, 7 femelles et 3 mâles seront bientôt transférées de Kouré, région de Tillabéri, à la réserve de Gadbeji dans le département de Dakoro, région de Maradi. À la demande du ministère de l'Environnement, la capture de ces girafes a déjà commencé, explique le maire de Kouré que vous suivez en partie magazine de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Célébration ce mardi 20 novembre de la Journée internationale des droits de l'enfant, une journée commémorant la date anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies. Selon la ministre de la Promotion de la femme et de la Protection de l'enfant, diverses actions sont entreprises par l'État du Niger dans le cadre du respect des droits contenus dans cette convention ratifiée par le Niger depuis le 30 septembre 1990. Madame Elba Kadam Zainabou Tari Bako, jointe au téléphone par le studio Kalangou.
Par exemple, dans le cadre de la lutte contre les mutilations des femmes féminines, le Niger a une loi. Nous étions à un taux de 5% en 1998. Le taux, depuis 2012, il est seulement à 2%. Donc, c'est le plus bas taux en matière de mutilations des femmes féminines. La sous-région, dans sa globalité, fait école. Et par rapport à ça, beaucoup de choses ont été faites. Les excuseurs ont été reconvertis. Vraiment, il y a eu un travail acharné. Il y a aussi l'âge de tous les enfants du Niger à aller à l'école. Aussi, il y a le décret portant protection, soutien, accompagnement de la fille. Le décret a été signé l'année dernière. Ce décret, il est mis en vigueur et est en train d'être appliqué. Mais là, il y a une approche, on appelle approche communautaire. Là aussi, ça rentre dans le cadre de la protection de l'enfant. Parce que c'est la communauté même qui s'engage à prendre en charge la protection de l'enfant. Il y a des filles là qui sont déscolarisées, mais qui aujourd'hui ont pris le chemin de l'école. Nous sommes là-dessus et que la protection de l'enfant est bien accompagnée par le gouvernement.
Pour le coordonnateur de la coalition nigérienne de défense des droits de l'enfant, l'application de cette convention internationale des droits de l'enfant laisse encore à désirer dans de nombreux pays du monde, dont le Niger. La protection de la CDE ne peut être bien assurée qu'avec l'acceptation et le respect par tous de ses 54 articles basés sur 4 principes sacro-saints, explique Sidoukou Moussa au micro du studio Kalangou.
La première disposition, c'est le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'autre principe, c'est le principe de la survie et du développement. Quand on parle, par exemple, de survie et de développement, ça veut dire qu'à l'intérieur, il faut qu'il soit éduqué, qu'il soit soigné, il faut qu'il soit sécurisé. Il faut qu'il ait aussi le respect de sa dignité en tant que personne. Le troisième principe, c'est le principe de la non-discrimination. Un enfant, dès lors qu'il est compris entre 0 et moins de 18 ans, qu'il soit fille ou garçon, noir ou blanc, chrétien ou musulman ou animiste, beriberi, hausa ou peul, dans le principe de la non-discrimination, nous devrons les traiter de la même sorte, qu'ils soient porteurs de handicap ou pas. Voilà un principe sacro-saint. Et l'autre principe, c'est le principe de la participation des enfants. Nous ne pouvons pas toujours continuer à décider à la place des enfants dès lors qu'ils ont le discernement. Comme certains parents veulent le faire croire aujourd'hui, quand une fille a 12 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, on peut la donner en mariage à qui on veut sans demander son consentement. Ça, c'est un principe qui est contraire au principe de la participation des enfants.
Les élus locaux de la commune d'Agadez, en compagnie du secrétaire général de la mairie et les acteurs de l'éducation primaire, ont entrepris hier une visite dans certaines écoles primaires de la commune. L'objectif est de s'enquérir des difficultés que vivent ces dernières. Algamis Islaman, secrétaire général de la commune d'Agadez, relate les problèmes enregistrés et les solutions envisagées. Il est au micro de Mousse Maman.
On peut citer le problème de manque de table banc et que nous sommes en train de gérer avec notamment la base américaine de Saint-In qui a mis tout récemment à notre disposition un nombre de 1000 table banc. Nous sommes en train de voir avec le PPDZ dont le marché a été même lancé pour la confection de 1425 table banc. Entre autres, il y a le problème des infrastructures, notamment le problème des classes et le problème de latrines scolaires. Pour ceux qui nous venons de constater, nous allons effectivement prendre des dispositions, surtout comme vous le savez au niveau de la commune urbaine d'Agadez. Nous avons un observatoire de la migration qui a élaboré un certain nombre de mesures qui tiennent compte de tous les problèmes au niveau de chaque secteur. Ces mesures, n'est-ce pas, identifiées, ont tenu compte également de ce manque d'établissement, de ce manque également de latrines au niveau de certaines écoles. Entre autres, nous avons aussi rencontré un problème qui n'est pas de moindre, c'est celui des effectifs plutériques. Vous allez trouver même des enfants à même les sols. On est conscient de ça, mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour régler tous ces problèmes au profit de nos populations.
Cette brève à présent, les djihadistes de Boko Haram ont attaqué trois nouvelles bases militaires dans le nord-est du Nigeria au cours du week-end, tuant au moins 44 militaires et 9 agriculteurs. Selon des sources civiles et sécuritaires, dimanche, des hommes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont attaqué une base à Métélé, un village reculé près de la frontière avec le Niger, où ils ont délogé les troupes nigérianes, a affirmé à l'AFP un officier militaire sous couvert d'anonymat. 32 kg de cannabis saisis dans un bus de transport en provenance d'un pays voisin par les éléments de la police de Gaya, région de Dosso, vendredi dernier. Le nouveau préfet, pour sa première sortie officielle depuis sa prise de fonction il y a 2 semaines, a tenu à encourager ses forces de sécurité pour leur prouesse. Hamidou Dioga au micro de Daouda Hassan.
Le choix du commissariat de Gaya pour effectuer cette première sortie n'a pas été un fait du hasard. En effet, les agents de police de cette institution m'ont souhaité la bienvenue en opérant une saisie importante parce qu'il s'agit de 32 kilos de cannabis qui a été saisi dans un bus. Et j'ai dit, c'est leur façon en tout cas de me souhaiter la bienvenue. C'est pourquoi je n'ai pas manqué de leur consacrer ma première sortie pour aller les encourager, leur apporter tous les soutiens et leur transmettre le message en tout cas d'encouragement et de félicitations des plus hautes autorités par rapport aux actes de dévouement qu'ils sont en train de poser dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans son ensemble.
Le paludisme, qui jadis se traitait facilement, est aujourd'hui devenu plus résistant avec plusieurs formes de traitement, mais aussi avec des complications sévères le plus souvent. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Falmey, région de Dosso, cette situation est due à l'inobservance par les patients de certaines mesures prescrites par les médecins. Docteur Idi Gibadje Aboubakar au micro de Mokhtar Hamadou.
En réalité, les malades qui viennent et qui reviennent, c'est dû le plus souvent à l'indiscipline, si je peux l'appeler ainsi, des patients. Quand, par exemple, vous mettez une personne sous ACT, et les quartèmes là, il doit faire, si c'est un paludisme simple, 3 jours de traitement. La personne, dès qu'elle prend une journée, 2 journées, deuxième jour, elle se sent mieux, elle abandonne. Et là, donc, vous voyez les conséquences que ces ACT-là, qui sont des molécules très efficaces, vraiment, si les gens vont continuer à ne pas respecter la durée du traitement, donc ils vont finir par être inefficaces aussi. Il peut y avoir des résistances. Ou bien, si c'est la quinine, maintenant, on met la personne, on doit faire 7 jours de traitement, les gens, en cours de chemin, ils arrêtent. Donc, conséquence, ils n'ont pas bien traité les palus. Donc, ils vont revenir. Quelques jours après, ils reviennent. Ce n'est pas que les molécules sont inefficaces, mais c'est parce que, effectivement, les gens ne respectent pas les traitements. Mais aussi, en amont, vous avez la prévention.
La Direction nationale de la statistique du Niger organise depuis la semaine dernière des missions d'enquête et de sensibilisation sur l'étendue du territoire national. L'objectif général de ces missions auprès des autorités administratives et coutumières est d'obtenir la collaboration effective des communautés et des ménages échantillons sur leurs conditions de vie. Bouzou Adamou, secrétaire technique permanent du Conseil national des statistiques INS Niger, au micro de Haroun Soumaï.
Dans tous les pays membres de l'UE, cette enquête est en train de se faire au même moment. C'est pour cela qu'on a fait une enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Le genre d'enquête n'est pas nouveau à l'INS. Du reste, on faisait ce genre d'enquête depuis les années 90, les anciennes enquêtes de consommation que vous connaissez, sur la base desquelles nous avons établi le premier profil de pauvreté du Niger. Donc c'est ce genre d'enquête-là. Maintenant, le seul fait nouveau, c'est que l'UE a voulu harmoniser ça, puisque on ne peut pas laisser tous les pays membres chacun collecte les données avec sa méthodologie, avec en tout cas un moment qui n'est pas harmonisé. Donc l'objectif vraiment c'est d'amener tous les responsables administratifs de cette région à accompagner nos équipes qui sont sur le terrain et qui sont actuellement en train de sillonner les villages échantillons qui ont été tirés et pour recueillir les données. Donc nos attentes c'est que ces responsables administratifs là puissent s'engager à soutenir nos équipes qui sont sur le terrain.
Depuis quelques semaines à Niamey, l'on constate une pénurie de gaz domestique chez certains fournisseurs comme la société nigérienne des hydrocarbures Sonihi. Selon son directeur commercial, cette insuffisance d'approvisionnement serait due à un rationnement du ravitaillement depuis la société de raffinage de Zander Soraz. Sur les 4 camions de gaz que Sonihi a l'habitude de réceptionner par jour, aujourd'hui, elle ne peut accéder qu'à un seul, voire deux. Abdou Hinsa Issa, directeur commercial de la société nigérienne des hydrocarbures de Niamey, au micro de Reila Toussoumana.
Cela remonte à 2 mois ou 3 mois de cela. Nous enregistrons effectivement des difficultés d'approvisionnement au niveau du gaz. Je peux dire que c'est depuis la raffinerie de Zender, parce qu'aujourd'hui on assiste à un rationnement des chargements. Je ne peux vous donner les raisons pour lesquelles ce rationnement est dû. On a 8 chargements par jour de camions pour l'ensemble des opérateurs évoluant sur le territoire national. Sur les 8 citernes, des fois j'ai droit à une citerne ou à 2 citernes. C'est impossible pour la SONI de pouvoir satisfaire la demande. À un moment donné, on avait jusqu'à 3 camions, voire 4 camions par jour, ce qui nous amenait à satisfaire la demande au niveau de la capitale, mais aussi au niveau des autres régions du Niger. Là, nous rentrons dans une phase un peu délicate. C'est le début de l'harmattan. Et vous savez que quand on parle d'harmattan, on parle de consommation de gaz. Et vraiment, nous espérons que les choses rentreront en ordre d'ici les prochaines semaines.
Parti Magazine, à présent, 10 girafes dont 7 femelles et 3 mâles seront bientôt transférés de Kouré, région de Tillabéri, à la réserve de Gadbeji dans le département de Dakoro, région de Maradi. Une initiative du ministère de l'Environnement en collaboration avec le National Graphic Giraffe Conservation Fund pour préserver d'une part les girafes contre d'éventuels épizooties et d'autre part pour expérimenter la possibilité pour elles de vivre ailleurs qu'à Kouré. Selon le maire de la commune de Kouré, à la date d'hier, 8 girafes ont été capturées sur les 10 prévues. Nous vous proposons de suivre Hassan Mamoudou, le maire de la commune rurale de Kouré, sur la vie des girafes. Il est interrogé par Alassane Kouzé Mohamedou.
Le nombre de girafes de Kouré dans le département de Kolo, région de Tillabéri, est en nette progression. Une progression due à la protection dont elles bénéficient et à la coexistence pacifique avec la population, même si par ailleurs l'habitat de la girafe subit une pression du front agricole qui avance. Écoutons le maire de la commune rurale de Kouré, Hassan Mamoudou.
En 2017, elles sont au nombre de 657 girafes. Donc les girafes vraiment connaissent une progression normale.
Est-ce que ces girafes, c'est une seule espèce ou bien il y a plusieurs espèces?
C'est une seule espèce, c'est la girafe Peralta qui vit en communauté vraiment directe avec les populations. Ce n'est pas dans une réserve protégée, elle vit en communauté avec les gens et paisiblement.
Alors est-ce qu'aujourd'hui cette girafe a des difficultés justement à coexister avec l'homme dans la commune de Kouré?
Aujourd'hui cette girafe a des difficultés et des difficultés réelles qui sont liées à la compétition de l'accès aux ressources naturelles. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir que la girafe s'intéresse à beaucoup de productions telles que le haricot, l'arachide, les mangues. Et cela est lié aussi par la pression humaine sur son habitat. L'habitat de la girafe est sérieusement menacé, dû d'une part par le front agricole, il y a une pression très forte sur les espèces apportées par la girafe, et surtout encore le nombre. Parce que je vous dis aussi que la girafe aussi ne cesse de progresser. On a quitté de 1995 à 50 aujourd'hui à 657 individus. Dites-vous que la pression aussi est forte.
Est-ce qu'on peut dire que cette production est liée au fait que les populations ont compris la nécessité de ne pas abattre les girafes?
Effectivement, cette progression est liée vraiment à la cohabitation paisible. Les populations ont accepté la girafe, l'ont pris comme étant une composante de leur vie.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.